Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonjour, bonsoir, vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes, l'émission de Radio Syllabe qui s'intéresse aux objets et aux faits de littérature. Aujourd'hui, 25 novembre est un jour un peu spécial. Déjà, c'est un jour de lutte et de mobilisation internationale contre les violences faites aux femmes. Mais c'est également, à une échelle plus locale, la première journée du Festival des Transversales, un événement porté par les étudiantes et étudiants du Master de Littérature Comparée, accompagnés de leurs enseignantes et d'un paquet de partenaires. Parce que la liste, on l'a déjà faite avec Marianne Di Benedetto et Gaëlle Debeau, toutes deux programmatrices de cette 10e édition. Au passage, bon anniversaire ! Je pourrais presque vous chanter, sauf que... non. Et puis en plus, c'est le thème qui vous est proposé cette année. Chanson, chanson. Au singulier, puis au pluriel. Voilà là l'objet qui sera étudié à la croisée des disciplines et des arts. Alors, bien entendu, confinement oblige, la programmation a subi quelques rebondissements. Mais ça, on va te laisser le découvrir, cher auditeur et chère auditrice, dans notre entretien. D'ailleurs, on n'a pas prévu que ça, hein. On a aussi de super chroniques. Bah tiens, commençons donc par celle de Clara.
Une femme et une enfant marchant, main dans la main, de dos, habillés d'imperméables aussi bariolés que leur parapluie, au centre d'un paysage fait de grisailles. Voilà à quoi ressemble la couverture du roman « La mélodie des jours » de Lorraine Fouché, une ancienne médecin urgentiste qui s'est ensuite consacrée à l'écriture. Publié en 2012, ce livre c'est d'abord l'histoire de Lucie, une mère célibataire, et de sa fille de 11 ans, Léa. Toutes deux débarquent dans une ville où elles ne connaissent personne et où elles ont tout à découvrir. Et des découvertes, justement, elles vont en faire. Que ces dernières passent par la joie, l'angoisse, la solidarité, l'amitié, l'abandon ou encore la musique, on peut dire que tenir entre ses mains ce roman, c'est comme tenir un condensé d'émotions. C'est une histoire tout en douceur qu'on lit avec un sourire sur les lèvres et des larmes au creux des yeux. Car dès le début du récit, un simple examen médical de contrôle montre une anomalie dans le sein de Lucie, et l'inquiétude pointe le bout de son nez. Rapidement, on pose le diagnostic de Lucie. Elle est atteinte d'un cancer du sein. La nouvelle est là, dans le cabinet du médecin qui lui explique que, de nos jours, cela se traite, qu'il n'est pas encore très développé, qu'elle pourra en guérir. Mais déjà, Lucie repense à son enfance, à la maladie, à son impact sur une famille. Elle songe à sa petite Léa, dont le père a disparu il y a des années, à sa fromagerie qu'elle tient seule, à tout ce qu'implique cette nouvelle.
Soudain, l'évidence me torpille. Tu ne dois surtout pas savoir que je suis inquiète, petite Léa. Je ne te ferai pas subir ce que j'ai éprouvé à cause de la maladie de Diane. Jamais. Mon impuissance à l'aider a pourri mon enfance. Tu ne connaîtras pas ça, ma Léa des Bois. Je t'en fais le serment solennel. Mais il faut que je parle à quelqu'un, sinon je vais imploser. Je ne peux pas me confier à maman. Elle a déjà une fille malade, elle n'en supportera pas deux. Elle risque de replonger. Diane a assez à faire avec sa propre carcasse. Je n'ai pas encore d'amis ici, j'ai trop travaillé pour lier connaissance. Je suis seule, si seule que j'en ai le vertige.
Cette nouvelle, elle refuse donc d'en parler à sa fille. Elle a pourtant besoin d'en parler, de se confier, comme ce serait probablement le cas pour beaucoup d'entre nous dans ce genre de situation. Alors elle découvre le site des voisins, une sorte de réseau social de quartier. Et pour ceux que ça intéresserait, ce site existe, il a été créé par Lorraine Fouché elle-même à la suite de son roman. La toile tissée entre les membres du site va donc prendre une dimension toute particulière dans l'histoire et s'étendre à leur vie dans le quartier. Lucie, alias Mouette sur le site, en profite pour extérioriser au sujet de sa maladie. Elle reçoit de l'aide, des conseils, un soutien dont elle a besoin pour faire face à cette épreuve. C'est sur ce site qu'elle s'entretient régulièrement avec Charlie, un de ses voisins. Derrière ce pseudo de Charlie se cache un véritable cocon pour Lucie. Mais plus que des conseils, il lui apporte de la musique. Au fil de leur conversation, il lui apporte de nouveaux titres à écouter en fonction de ses émotions, de ses besoins. Comme un ami aurait les mots justes pour nous consoler, Charlie, lui, à la musique qu'il faut, au moment où il le faut.
Il veut m'opérer rapidement. Quand je lui ai demandé si j'allais mourir un jour, il m'a répondu qu'on y passera tous un jour. Je suis soulagée d'aborder ce sujet et Charlie est le seul que ça ne déstabilise pas.
On n'y coupera pas. On danse tous sur le pont du Titanic, mais on a le choix de la musique.
Je repense à l'air de Mozart qui m'a tant chamboulée. Si je lui en parle, il va me prendre pour une snob et une pédante. Vous dansez sur quelle musique ?
Si je devais n'en garder qu'une seule, l'Ave Maria de Caccini. La première fois que je l'ai entendue, j'ai eu un choc. C'est la musique la plus parfaite du monde. Les notes sont comme des gouttes de pluie sur un fil. Dites-moi que vous l'aimez.
Je suis une béotienne, j'avoue. Je ne sais même pas ce que c'est.
Connectez-vous tout de suite sur une banque de musique en ligne et écoutez-le. Vous ne pouvez pas vivre une minute de plus sans l'avoir entendu. Foncez.
Je suis son conseil. Je baisse le volume à cause de toi qui dors à côté. Je choisis au hasard la version d'une cantatrice coréenne et j'écoute pour la première fois de ma vie l'Ave Maria de Caccini. C'est une révolution, un enchantement, une révélation. Comment décrire le ruissellement d'un torrent? Comment traduire la pureté d'une voix? Comment expliquer qu'une certaine combinaison de notes exprime aussi intensément l'enfance, l'innocence, la joie, la tristesse, la solitude, la passion, la mort et l'éternité? Tout y est. Tout est dit. On mourra tous un jour. On danse tous sur le pont du Titanic. Je veux danser le temps qui me reste sous cette musique.
On voit donc au fil de l'histoire une forme de complicité qui se crée entre Mouette, Lucie et Charlie, complicité qui passe avant toute chose par la musique qu'ils se partagent et dont on retrouve la liste des titres à la fin du livre. Vous aussi, auditeurs et auditrices, vous avez probablement connu ces instants où une musique vous rappelle un moment, une émotion, ou quelqu'un en particulier, ou ces personnes qui vous font découvrir un morceau qui vous bouleverse et que vous ne vous lassez plus d'écouter. Ou peut-être que vous avez, comme moi, comme Lucie, des chansons que vous écoutez pour vous aider à faire face au quotidien lorsque les difficultés apparaissent. Charlie rythme les journées de Lucie, entre son rôle de mère, son travail, ses allers et retours chez les médecins. Mais Charlie et Mouette ne sont pas les seuls utilisateurs de ce site. On retrouve ainsi Léa sous le nom d'Eskimo, @ un jeune garçon cloué dans son lit le temps que sa jambe se répare. Corsica, une enseignante à la retraite qui a dû quitter la Corse dans laquelle elle habitait, et beaucoup d'autres encore. Toutes ces personnes se croisent chaque jour sans se connaître, mais le site des voisins est pour eux un lieu de partage et d'entraide. Les liens qui s'établissent entre eux se renforcent à mesure que les blessures de chacun nous apparaissent. Mais pour ça, je vous laisse vous plonger dans ces pages pour faire plus ample connaissance avec les personnages secondaires. Tout au long du livre, Lucie s'adresse à sa fille, Léa, par le pronom « tu ». C'est certes un détail, mais un détail qui plonge davantage dans l'intimité du roman. On y sent tout l'amour que Lucie porte à sa fille même lorsque celle-ci est absente. On voit ainsi que c'est pour elle qu'elle fait tout cela. C'est une manière touchante de nous montrer le lien solide qui les unit. Lucie compare d'ailleurs le rire de sa fille à une mélodie, lorsqu'elle lui dit que son rire, je cite, « est aussi musical que Caccini, le fameux Ave Maria qui l'a tant ému. » La musique et la maladie sont donc liées du début à la fin du roman, mêlant la réalité concrète du cancer de Lucie à l'univers offert par la musique.
Nous sommes dans la salle d'attente. Tout le monde regarde ses pieds. Le silence est rompu par l'arrivée d'une femme en pull jaune poussin qui parle très fort.
Vous l'avez déjà faite, vous, la mammographie de contrôle? C'est quand même pas normal. Ils m'ont fait payer le prix habituel. Pourtant, je devrais ne payer que la moitié du prix, puisqu'ils m'ont enlevé un sein. Ils ont moitié moins de travail pour analyser la radio, non? Je vais le dire au docteur.
Chacun des visages son voisin. Et on se sourit largement. Je découvre cela. Que le rire nous est nécessaire, essentiel, qu'il soigne autant que les médicaments. Comme la musique et les petits bonheurs de chaque jour.
Comme l'explique Lorraine Fouché sur son site, elle a cherché à écrire un livre positif et chaleureux. Elle n'a jamais trouvé de livre qui aborde cette maladie avec espoir et optimisme, donc elle a décidé de le rédiger elle-même pour soutenir ses amies atteintes du cancer du sein et, plus largement, toutes les femmes qui pourraient être touchées. Car il faut savoir qu'en France, on estime aujourd'hui qu'une femme sur 8 en sera atteinte. Bon, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le pari semble réussi, puisque son récit est poignant, et pourtant il nous met du baume au cœur, comme un pansement qui s'y déposerait à la lecture. Malgré sa carrière de médecin, l'auteur ne nous envahit pas de termes médicaux complexes et indéchiffrables. On peut prendre ce livre comme une véritable ode à l'altruisme et à l'humanité. Et oui, parce qu'il y a l'histoire de Lucie et de sa bataille contre le cancer, l'histoire de Léa qui arrive dans une école où elle ne connaît encore personne et que sa mère veut à tout prix mettre à l'écart de sa maladie. Mais il n'y a pas que cela. Comme vous l'avez peut-être deviné, il y a aussi la romance qui se noue entre Charlie et Lucie. Il y a toutes les histoires des autres personnages qui se créent les unes en parallèle des autres, mais qui, finalement, sont toutes liées par la même chose, la bienveillance, le tout sur un fond très musical.
Merci Clara pour le partage de cette histoire tout en sensibilité et en musicalité. Avant de poursuivre notre émission, on va écouter une petite musique. Pas l'Ave Maria de Caccini, mais un titre qui figure quand même parmi les remèdes musicaux des protagonistes. Il s'agit de What a Wonderful World, interprété par Louis Armstrong. I see trees of green, red roses too. I see them blue.
for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
What a wonderful world, de Louis Armstrong. Vous écoutez, j'irai cracher sur vos ondes.
Le Festival Transversal, qu'est-ce que c'est ? Fondé par Jean Cléder et Timothée Picard en 2011, il réunit différentes disciplines relevant de la littérature et des arts autour d'une thématique commune. Le but ? L'explorer, à la croisée des événements scientifiques, des événements culturels et des rencontres. Et tout spécialement cette année, vous pourrez découvrir en ligne tout un tas de rencontres, tables rondes, conférences, même chanter. Car c'est bien de chansons dont il s'agit. Au pluriel comme au singulier. Parce que bon, entre le poème qui se lit sur fond de violon, les chœurs et autres chants sur planche théâtrale, puis les phrases posées, phrasées, parlées, rappées, et plein d'autres choses encore, bah l'ambervilificotage de pinceau s'est vite arrivé. Alors on va plutôt laisser Marianne Di Benedetto et Gaëlle Debeau nous raconter par quel chemin de traverse la programmation des transversales va nous mener.
Du coup, je vous propose de commencer tout de suite, d'abord peut-être en vous présentant, parce qu'il y a eu plusieurs personnes à porter le festival transversal. Je vous invite, vous, Marianne Di Benedetto et Gaëlle Debeau, de vous présenter quels sont vos rôles dans l'université et sur ce festival plus particulièrement.
Bonjour, merci beaucoup. Donc nous sommes toutes les deux avec Gaëlle Debeau ici présente, les co-organisatrices du festival de cette année. C'est la 10e édition, donc belle édition anniversaire. Nous, on a chapeauté tout ça en tant qu'enseignante du département lettres, mais comme vous le disiez très bien, on est plusieurs à porter le projet. C'est vraiment une grande équipe. Il y a non seulement beaucoup de partenaires institutionnels, donc les Champs Libres, la Maison de la Poésie, le TNB, le URCAP, enfin, bon, on pourra revenir là-dessus, et surtout toute une équipe d'étudiants et de bénévoles à l'association Transversale Rennes 2 qui nous ont aidés pour chaque événement.
Je vais dans le sens de Marianne, c'est vraiment quelque chose que nous avons co-construit. Cette édition sur la chanson, c'est vraiment le projet de Marianne Di Benedetto en termes de thématique, hein, parce que c'est une thématique qui lui tenait vraiment à cœur. Et moi, pour ma part, je participe à l'organisation, à la co-organisation du Festival Transversal, déjà pour la 4e année consécutive. Point de vue de l'organisation, je n'apportais un peu les connaissances, on va dire, techniques sur la gestion du budget, les choses comme ça. Et puis Marianne, c'était vraiment le cœur pensant de cette thématique.
Quand on voit que vous êtes en train de travailler sur une thèse, écrire sur la chanson en France entre 52 et 68, on se doute que c'est quelque chose qui vous parle beaucoup.
Oui, bien sûr, c'est mon thème de recherche central. Alors, mon titre de thèse a changé depuis. Je travaille en fait sur la chanson à travers les livres et sur la critique musicale de chansons. Avant ma thèse, j'ai aussi travaillé dans une structure spécialisée dans la chanson qui est le Hall de la chanson, qui est un théâtre spécialisé et consacré exclusivement au patrimoine musical de la chanson.
On va alors avoir l'occasion d'ailleurs d'en reparler de ce théâtre qui occupe une belle place dans la programmation. On sait du coup pourquoi vous, en tant qu'actrice de ce projet, vous êtes positionnée sur cette thématique. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement à notre auditorat de la chanson littérature ? Pourquoi en parler ? Pourquoi c'est pas si évident que ça et que ça mérite autant de temps ?
L'objectif du festival transversal depuis ses débuts, c'est de mener un projet qui parte de la littérature et qui aille vers d'autres pratiques artistiques. Marianne Di Benedetto, comme moi et comme la plupart des co-organisateurs de ce festival dans les années passées, nous sommes enseignants-chercheurs en littérature générale et comparée, dans une perspective qui vise à comparer la littérature avec d'autres pratiques artistiques et d'aller voir un petit peu les croisements, les hybridations. Et la chanson, de ce point de vue-là, c'est un objet qui est vraiment extrêmement intéressant parce que finalement, comment est-ce qu'on arrive à définir la chanson ? Qu'est-ce que c'est la chanson ? Et selon les perspectives, on va avoir envie de la définir à partir de son rapport, par exemple, à la poésie. Donc, avoir une réflexion qui rapproche la pratique de la chanson d'une pratique plus facilement ou strictement littéraire, on va dire. Mais la chanson, c'est pas que de la poésie, c'est aussi une mélodie, c'est aussi une musique, c'est aussi quelque chose que l'on peut chanter ensemble. Ce qui a été très intéressant pour cette thématique, et c'est ce qu'on essaye de faire ressortir un peu dans notre programmation, hein, c'est cette idée que vraiment la chanson en soi, c'est un objet éminemment hybride qu'on peut aborder à partir de plein de points de vue. Et c'est le croisement de ces points de vue, la richesse de ces croisements qui nous intéresse vraiment, je crois, pour cette 10e édition.
C'est cette réflexion-là, en fait, qui a donné lieu au titre même de cette édition. On tenait vraiment à ce qui est chanson singulier suivi de chanson au pluriel pour, dès le titre, interpeller un peu notre public et poser la question de qu'est-ce que la chanson au singulier ? Est-ce que c'est un ensemble vraiment définissable ou pas ? Et est-ce qu'il n'y a pas surtout une mythologie derrière la chanson, tout comme il y en a une derrière littérature au singulier d'ailleurs ?
Alors le fruit de cette réflexion, on va pouvoir en parler. Je voulais souligner un geste qui m'a touchée en fait, car à la lecture de votre programme, lorsqu'on lit ce qui nous attend pour la première journée, c'est pas une journée comme les autres, c'est pas juste la première journée du festival, c'est aussi la journée des luttes contre les violences faites aux femmes. Et donc vous n'avez pas juste veillé à ne pas invisibiliser cette journée, vous avez attaquer le problème, vous l'avez regardé droit dans les yeux, avec une conférence chantée dans le hall de la chanson dont on parlait plus tôt, en partenariat avec le Centre National du Patrimoine de la Chanson et de la Musique Actuelle. Et donc, qu'est-ce qui nous attend pour cette conférence chantée, hein ?
Alors, en fait, les conférences chantées, c'est un format, des formats les plus centraux, des plus traditionnels de cette institution-là. L'idée, c'est une conférence assez didactique, hein, du coup, qui dure une heure, mais qui est illustrée d'exemples, tout comme quand on fait une conférence à l'université, sauf que là, les exemples sont chantés par des artistes. C'est vraiment une formule clé du hall de la chanson. Du coup, quand on s'est associé avec eux pour cette édition, ils ont proposé de réinvestir ce format bien connu et bien maîtrisé par eux et par leurs artistes. Et ils ont tout de suite été très sensibles comme nous à l'idée que c'était une journée internationale de mobilisation, et ce sera en direct du hall de la chanson. Et justement, comme c'est une thématique très vaste et que c'est un enjeu important pour nous mais aussi pour le public, c'était important que ce soit maintenu, cette conférence-là, vu que c'est une date internationale, le 25 novembre, et aussi que du coup ce soit en direct pour permettre à des gens de réagir en direct avec des questions sur l'événement Zoom que nous pourrons lire aux artistes à la fin de la conférence, et ils auront l'occasion d'y répondre en direct sur Zoom demain.
Alors Laurent, ce sera diffusé, ça sera hélas du passé, mais on peut parler du coup de la deuxième conférence chantée qui elle aura lieu dans le futur, le jeudi à 13h. Et il s'agit donc de la chanson Le Parler Chanté, la chanson abordée dans son aspect formel et historique avec Olivier Husnet et l'accordéoniste Ivica Bogdanik.
La question du parler chanté, en fait, ça nous intéressait particulièrement parce que ça permettait d'historiciser en fait un sujet brûlant, le rap et le slam, qui sont en fait des formes extrêmement diffusées aujourd'hui, qui sont même majoritaires dans la musique française et même internationale aujourd'hui. Et du coup, on voulait montrer que cette manière-là de parler, de phraser autrement les textes, était antérieure en fait à l'existence officielle du rap qui date de la fin du XXe siècle et qui a en fait toute une histoire du parler chanté, et notamment en France qui remonte au XIXe siècle et au cabaret de Montmartre et à toute une tradition chansonnière assez ancienne. Et du coup, le hall de la chanson étant donc notre partenaire privilégié sur cette édition et connaissant très bien le patrimoine dans toute son ampleur, ils ont été sensibles à l'idée que nous, on voulait faire des rencontres avec plusieurs artistes sur le rap, sur le slam. Ils ont dit, ben nous, ce qu'on pourrait apporter en tant que Centre National du Patrimoine, c'est une mise en perspective de cette manière d'écrire, de cette manière de chanter et d'interpréter. Et comme le même jour, on a une rencontre avec Georges K, que du coup, on a dû, qui est une slameuse, autrice, compositrice, on a voulu réunir les deux, à la fois pour montrer l'actualité de ce type de musique et son histoire.
Un autre type d'échange et de rencontre qui est proposé, c'est un temps d'échange et de rencontre avec l'artiste multifacette Albin de la Simone en partenariat avec Les Champs Libres, qui sera animé par vous-même, Marianne Di Benedetto. Mais je crois que vous avez beaucoup de monde qui a aussi travaillé à la préparation de cette rencontre. Donc les étudiants du master littérature générale et comparée, mais également ceux de l'URCAP.
Avec le confinement, on a été obligé de réinventer tout le festival. Donc à chaque événement, en lien avec ces têtes pensantes, étudiantes et bénévoles et les invités, on a proposé un événement après l'autre, de repenser le format. Et là, pour Albin de la Simone, on est parti d'une interrogation par rapport à l'artiste lui-même, qu'est-ce qu'il voulait faire ? Est-ce qu'il voulait du direct ou est-ce qu'il voulait qu'on repense le format ? Et il a demandé à ce qu'on garde un entretien en direct parce qu'il voulait maintenir ce contact en temps réel avec les étudiants et les étudiantes. Je précise juste quand même, tout comme les autres événements en direct de la semaine, on a prévu une captation et une rediffusion ensuite sur la chaîne YouTube du festival. Donc tout est pérenne en fait.
Il y a aussi un autre événement qui, lui, pour le coup, est complet. Il s'agit de l'atelier d'écriture des Maudits avec Juliette Thomas, où il était question de passer la chanson en fiction.
En fait, dans le cadre de cette édition du festival, nous avions trois ateliers de création qui en passaient d'une façon ou d'une autre par l'écriture. Un d'entre eux devait proposer deux séances, une séance en octobre, une séance en novembre, ce qui veut dire que nous avons eu un événement en direct et en présentiel quand même pour le festival. C'était un atelier pris en charge par Rebecca Rouge et Gaëlle Faune et qui visait à proposer des créations de chansons, et ça a été vraiment un super moment. On a deux ateliers qui ont été maintenus en basculé en distanciel pour cette édition malgré tout. Effectivement, l'atelier de Juliette Thomas qui a lieu jeudi, c'est un atelier qui est un one-shot en quelque sorte. Et il faudra qu'on échange de nouveau avec Juliette Thomas parce que je pense que ça va émerger du groupe, peut-être effectivement ce qu'ils vont faire collectivement de leur texte. Mais nous, on est tout à fait ouverte avec Marianne Di Benedetto à la possibilité d'imaginer des suites. Cette possibilité-là, on est en train d'en discuter avec le troisième atelier d'écriture que l'on fait en partenariat avec la Maison de la Poésie. C'était un atelier d'écriture avec le poète contemporain Samuel Rochery. Et je crois que le groupe a travaillé de façon extrêmement dynamique et suivie sur la chanson, en réfléchissant un petit peu à la façon dont, dans certains imaginaires, la chanson peut donner lieu à des sortes de malédictions ou de choses comme ça, du type ce qui se passe quand on écoute une chanson à l'envers et qu'on reconnaît des paroles, parfois des paroles sataniques. Le groupe a travaillé autour de cet imaginaire-là, de ces perspectives-là, et nous sommes en travail avec eux pour savoir comment produire un résultat. Alors peut-être qu'on va, avec Quentin Leclerc de la Maison de la Poésie, travailler à une sorte de petite publication papier qui serait distribuée par la Maison de la Poésie, ou bien on va aussi peut-être imaginer une soirée au second semestre, quand on pourra se réunir de nouveau.
En tout cas, ces ateliers, ils marquent un peu la démarche, on va dire, transversale du festival, parce que ce n'est pas une question uniquement de discipline, mais c'est aussi une question d'approche.
Ça fait 2 années qu'on fait ça de façon vraiment explicite, on va dire, dans le programme. Ça nous tient vraiment à cœur, ça, cette idée que, en fait, on peut aborder une thématique en y réfléchissant, en écoutant des gens en parler, et des gens qui sont soit des chercheurs, soit des artistes, soit des médiateurs sur le sujet, mais aussi en pratiquant les choses. Et ouais, cette perspective un peu de recherche-création, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse beaucoup.
Il y a aussi tout un tas en fait de documents que vous avez réfléchi et créé pour ce festival et que vous mettez à disposition au fil de l'eau. On peut par exemple parler de cette exposition numérique Chansons en partition dont la commissaire est Rebecca Rouge.
Il y avait eu tout un repérage fait par Rebecca Rouge dans les fonds du conservatoire de musique, qui a un très grand fonds de partitions, c'est des petits formats, ça n'existe plus du tout maintenant, mais c'était extrêmement répandu à l'époque, c'était vendu sur les marchés, dans les rues, et ça permettait aux gens de chanter en fait, d'interpréter les chansons partout et tout le temps. Il y a eu un gros travail de numérisation et on était en train de travailler aux impressions pour effectivement faire une exposition physique à la bibliothèque universitaire Musique. On espère qu'elle pourra exister, cette exposition, un jour. Mais en attendant, Rebecca Rouge a pris les devants et elle est en train de concevoir avec quelques étudiants cette exposition à partir des fonds dont je vous parlais et d'entretiens qui devaient avoir lieu en fait en inauguration de l'exposition. Le projet est dédoublé et enrichi en un sens.
Vous avez également parlé plus tôt de l'échange chanson rap slam avec Georges K, qui du coup est sous la forme d'une capsule vidéo. Est-ce que vous voulez revenir dessus pour parler de manière plus approfondie de cet échange avec l'artiste ?
C'est un format qui a pas mal évolué depuis le début de nos réflexions et ça montre bien en fait comment on construit un festival avec les étudiants selon leurs envies, avec les invités selon ce qu'ils peuvent faire, etc. Parce qu'à l'origine, ça devait être une table ronde avec Georges K, qui est donc une slameuse rappeuse actuelle, et avec Daticha, Anis Aboud de son vrai nom, qui est aussi un rappeur. Et voilà, on voulait les faire dialoguer au départ, mais bon, ça n'a pas fonctionné comme ça, et donc on a décidé de consacrer toute cette rencontre à Georges K. C'est une artiste montante, on peut dire, qui commence vraiment à se faire connaître et qui est extrêmement intéressante. Je vous invite vraiment à aller écouter ses titres et à aller voir ses clips. C'est vraiment une écriture extrêmement intéressante, une mise en voix, une mise en chanson aussi, parce qu'elle chante aussi, extrêmement, extrêmement touchante aussi. Et puis elle a un rapport avec la littérature aussi qui est très riche et qui mérite vraiment d'être interrogée, bien que son pseudo, par exemple. Comme ça n'a pas pu avoir lieu, C'est ce que disait Marianne tout à l'heure, on a essayé de réfléchir au format en se disant, bah voilà, on va pas forcément transposer toutes les rencontres qui auraient dû avoir lieu en vrai, entre guillemets, en des rendez-vous virtuels en direct, avec le petit groupe d'étudiantes et d'étudiants avec qui on travaillait, hein, qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut imaginer qui correspondrait bien à Georges K. Et il se trouve que Georges K, c'est une artiste qui a un rapport très prégnant aux réseaux sociaux. Voilà, elle utilise Instagram, elle utilise Facebook, elle a une chaîne YouTube, elle fait souvent des petites capsules vidéo comme ça, rapides et dynamiques. Donc on s'est dit, bah, pourquoi ne pas nous-mêmes essayer de créer un format de ce type-là, parce que ça correspond pleinement, en fait, à la façon qu'a Georges K de s'exprimer déjà en temps normal. La capsule vidéo qu'on veut faire, le but, c'est que ce soit un format rapide. Donc, on ne peut pas poser beaucoup de questions, on ne peut pas tellement lui laisser beaucoup de place pour développer des réponses approfondies. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi ne pas coupler cette création à un entretien plus long, peut-être en cercle plus restreint, et qui donnerait lieu, effectivement, ensuite à une transcription sous forme d'interview qu'on publierait sur le site. Donc là aussi, hein, c'est quelque chose un peu en deux temps. Et comme le disait Marianne à l'instant, finalement, cette bascule en numérique du festival, elle est très décevante d'un certain point de vue, parce qu'on ne peut pas se rencontrer en vrai, et c'était vraiment un point d'orgue du semestre qu'on attendait avec impatience. Mais d'une certaine façon aussi, ça nous permet d'inventer des nouveaux formats, des nouvelles choses. Et je remercie en passant, hein, les étudiantes et les étudiants avec qui on travaille, parce que la plupart des idées d'adaptation, elles proviennent d'eux, en fait.
Voici la question qui a dû être réenregistrée en post-prod, parce que les chats, c'est webcam compatible, mais pour les micros, c'est pas très jojo. En parlant des formats que vous avez improvisés pour le maintien de cette édition, il est également question d'un podcast documentaire pour aborder le sujet des comédies musicales. Par ailleurs, précisons qu'une projection sera organisée par Ciné Tambour pour regarder depuis chez soi Peau d'âne de Jacques Demy, un chef-d'œuvre du genre. Mais revenons donc à ce documentaire porté entre autres par Maëlla Jacquinet et Marion Ignace.
Donc est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quelles étaient les intentions derrière ce podcast ?
Effectivement, Marion Ignace et Maëlla Jacquinet sont deux étudiantes qui ont déjà participé les années passées au Festival Transversal et qui prennent un rôle vraiment très important cette année avec nous dans cette organisation, parce qu'elles ont été depuis le début en responsabilité de cet événement comédie musicale qui, à l'origine, aurait dû s'associer à un cycle de projections cinématographiques sur toute la semaine au Ciné TNB. Avec donc ce point d'orgue du vendredi soir où il y aurait dû y avoir une table ronde avec les invités que vous avez mentionnés autour de cette question de la comédie musicale. Ce que Marion et Maëlla ont décidé de faire, c'est de prendre appui aussi sur l'énorme, sur la très très grande dynamique qu'il y avait au sein de leur groupe de travail. Parce qu'en fait, chacune des étudiantes impliquées a réalisé ou est en train de réaliser un petit podcast informatif sur un élément qui l'intéresse dans la comédie musicale, sur tel ou tel ensemble de films, sur telle perspective ou autre. Et en même temps, chacune en responsabilité va interroger les invités qui étaient initialement prévus avec un ensemble de questions qui ont été élaborées aussi. Et à la fin, tout ce petit groupe-là va travailler à la réalisation. Alors vraiment, on appelle ça podcast, mais c'est vraiment un documentaire, en fait, sur la comédie musicale, sur les comédies musicales. Je pense que c'est extrêmement ambitieux. Alors ce documentaire-là, pour le coup, il ne va pas être mis en ligne cette semaine. On va avoir un petit teasing parce que c'est vraiment un très, très gros travail.
Il y a des choses qui seront partagées en continu qui, pour le coup, sont déjà disponibles en ligne, en fait, pour la plupart. Vous avez créé, du coup, pour l'occasion, une playlist chansons au singulier puis chansons au pluriel sur Deezer.
Je peux en dire deux mots pour que vous compreniez aussi un peu le principe de construction de cette playlist-là. L'idée, c'était que nous, on vienne avec nos idées rapidement au début de semestre, mais qu'on laisse vraiment les étudiants libres de mettre les chansons qui leur semblaient pertinentes et qui leur plaisaient. Et en fait, on a créé une playlist d'une centaine de titres avec les goûts et les envies de chacune et chacun. Ce qui fait que c'est assez hétérogène, hétéroclite, mais volontairement, et ça va avec le titre chanson, c'est pour ça qu'on le remet aussi en titre de la playlist, c'est que les chansons, c'est tout ça.
Pour parler un petit peu aussi de ce qui a déjà été fait sur le site, on a déjà des articles qui ont été publiés. Alors ça, c'est une tradition qui a toujours eu lieu avec le festival dès lors qu'il y avait le site, du coup, transversal.hypothèse.org, qui est que les étudiants puissent produire en fait des articles et amener leurs réflexions sur la thématique. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette démarche d'accompagner, enfin en tout cas de permettre une plateforme d'expression pour les étudiants et étudiantes ?
On veut permettre aux étudiantes et aux étudiants de s'investir dans le festival, mais selon aussi leur tempérament. Et il y a des étudiantes et des étudiants qui ont très envie de participer à un projet collectif, de prévoir des questions pour une table ronde, voire de poser les questions pendant un événement en direct, etc. Puis il y a d'autres étudiantes ou d'autres étudiants qui ont moins envie comme ça d'être sous les feux de la rampe, en quelque sorte. Et pour nous, l'article, ça nous paraît une autre prise de parole possible et tout à fait intéressante pour ces étudiants-là. La consigne, c'était finalement deux possibilités, soit écrire un article qui porterait sur un invité ou une invitée ou un élément traité pendant le le festival. Donc, par exemple, c'est l'article de Candice Charon sur les comédies musicales. Et puis, on a aussi laissé la possibilité aux étudiantes et aux étudiants de proposer des sujets en rapport large avec la chanson. Et voilà, et ça permet l'émergence de sujets vraiment intéressants. Alors, l'article de Zoé Thibault sur Bobby Lapointe, moi, je le trouve très savoureux. Et vraiment, je trouve que c'est super intéressant de pouvoir avoir un parcours comme ça, centré sur un chanteur. Pour l'article sur la chanson dans Tolkien, moi, je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à cette proposition de sujet-là, parce que voilà, ça ne m'avait pas traversé l'esprit qu'il y avait un travail comme ça sur la chanson dans l'œuvre de Tolkien. Mais effectivement, la proposition de Doriane Pinault a été là aussi très stimulante, et je suis contente qu'on ait cet article qui soit publié aussi, parce que je trouve que ça apporte quelque chose et sur la chanson et sur Tolkien. Donc des gens qui seraient intéressés par exemple par le Seigneur des Anneaux ou l'univers du Seigneur des Anneaux pourraient avoir une porte d'entrée vers le festival par ce biais-là. Notre petit conseil, c'est de continuer à venir consulter le site pour voir la suite de ces publications. Hein.
Mais peut-être qu'on peut parler un petit peu des lendemains qui chantent, le joli titre qui est donné au programme qui a été repoussé, parce que il y avait déjà eu un gros travail pour permettre à l'édition confinée d'avoir lieu. Est-ce qu'il y a un événement particulier? Vous voulez qu'on soit alerte sur sa tenue en 2021?
Non, peut-être Gaëlle, je ne sais pas ce que tu en penses, mais peut-être le concert de Clara Isée. Ce sera un concert porté par le service culturel, mais en partenariat avec la salle de spectacle L'Air Libre, qui avait en fait prévu de programmer un concert de Clara Isée au mois de mars et qui a accepté qu'on s'associe. On invite toutes les personnes intéressées par cet artiste, déjà à la découvrir si ce n'est pas encore le cas, et puis à nous rejoindre le 17 mars, parce que ce serait une belle manière de prendre la revanche sur le confinement et de se retrouver en vrai pour fêter ça. Et aussi, parce que le service culturel a pu négocier et mettre en place un partenariat étroit qui permet aux étudiants de Rennes 2 d'avoir des places au tarif très préférentiel de 4 euros.
Personnellement, je tenais aussi à signaler qu'il était prévu de faire une déambulation en chanson dans Rennes, guidée par toute l'équipe derrière le festival, qui a été reportée pour l'instant en juin. Les modalités sont à préciser. Je trouvais intéressant de parler en fait de cette démarche qui était de déambuler dans la ville.
Oui, bah, je peux en dire quelques mots. Effectivement, c'est vrai, vous avez raison. C'est un format qu'on aime beaucoup aussi, qui nous tient bien à cœur. Et c'est quelque chose qu'on avait tenté l'an dernier. Donc l'an dernier, la thématique, c'était écrire. Et on avait déambulé dans la ville de Rennes à la recherche des écritures en ville, c'est-à-dire tout ce qui s'écrit sur les murs, tout ce qui s'écrit de façon officielle, de façon non officielle, et comment est-ce qu'on pouvait porter un regard littéraire sur ces écritures. Et vraiment, ça avait été un super moment, même s'il faisait très froid, parce qu'on était en novembre, donc il faisait très froid. mais c'était vraiment un super moment, et donc cette année, on a trouvé que ce serait vraiment bien d'essayer de reprendre ce format-là et de l'adapter à notre thématique, donc la chanson. Et on a travaillé notamment avec Marc Clérivet, qui travaille notamment beaucoup sur la chanson traditionnelle bretonne. L'idée, ce serait d'aller redécouvrir certains lieux, certains monuments de la ville de Rennes en chanson, d'une façon qui est encore à inventer, je pense, mais en mettant en voix certaines chansons qui portent sur la ville de Rennes, qui portent sur ces monuments, mais aussi, pourquoi pas, mettre en scène et mettre en voix des chansons plus contemporaines qui parleraient de la ville de Rennes, pour essayer de voir, en fait, comment les lieux qui nous environnent sont perçus d'une autre façon quand on les voit en chanson, mais pour voir aussi comment est-ce que les chansons construisent en fait un rapport au lieu, un rapport à la ville, et qu'est-ce que c'est que la ville de Rennes dans les chansons quand on met un peu à la suite ce corpus de chansons. Et juste pour terminer sur ce point, en fait, ça c'est un événement qu'on essaie de réaliser en collaboration avec l'EURCAPS, qui est cette école universitaire de recherche portant sur les approches créatives de l'espace public, qui est en train d'être mise en place à Rennes 2 et qui ouvrira sa formation à la rentrée 2022. C'est tout un ensemble de chercheurs et de chercheuses et d'enseignantes et d'enseignants qui sont réunis autour de cette question du rapport créatif qu'on peut avoir à l'espace public, c'est-à-dire comment l'art nous conduit à appréhender d'une nouvelle façon le monde qui nous entoure, mais aussi comment est-ce que ce monde qui nous entoure trouve sa place dans les pratiques artistiques.
Il y a un moment où vous pouvez parler de ceux qui vous chantent, c'est le mot de la fin. Donc, quel est le vôtre?
Le mot de la fin, c'est vraiment qu'on espère de tout cœur que cette édition confinée, pour laquelle on s'est creusé la tête à plusieurs, fonctionnera, plaira et réunira du monde. Et en tout cas, on invite toutes les personnes qui voudraient aussi écouter en différé ce qu'on propose à ne pas se priver. Tout ça est fait pour.
Finalement, ces 10 ans du festival, qui aurait dû être un vrai moment festif d'anniversaire, c'est quand même un moment festif parce que finalement, cet anniversaire va durer 1 an. Donc voilà, autant en profiter de cette 10e année anniversaire du festival transversal, venir picorer tout ce qu'on propose et puis ne pas hésiter à réagir, notamment sur les réseaux sociaux ou sur notre site. Ça nous fera très plaisir.
Merci à Maya Di Benedetto et à Gaëlle Debeau pour avoir répondu à toutes mes questions. J'espère que cet entretien aura répondu à vos interrogations, auditrices et auditeurs, pour tout savoir sur la programmation du festival. et que cela vous aura donné envie d'aller à la rencontre de toutes ces propositions qui ponctueront les 4 jours à suivre, mais qui, pour la plupart, resteront disponibles sur le site du Festival Transversal. Pour rappel, transversal.hypothèse.org. Et avant de poursuivre notre émission, on va écouter Georges K, artiste mis à l'honneur par les Transversales. Voici donc sa chanson, Jolie Personne.
Samedi soir, ça se bouscule, la nuit s'allume dans la capitale. La lumière réverbère les visages dans la chaussée sale. Les néons rendent fluo les reflets de leur fond de teint. Poupée de cire monte le son quand elle monte dans le train. Chante à tue-tête malgré les têtes qui se retournent. Plus fière et plus forte quand elle s'agrippe par les coudes. Elle resserre le rang pour mieux affronter les regards. Une chaîne humaine maquillée formée de 6 maillons criards. Toutes la rame en rage contre ces belles dérangées. S'il leur arrive des déboires ce soir, elles l'auront bien cherché. Regarde les défis. Il est comme des chars dans le métro morne calé sur le pas des copines comme un métronome. De jolies personnes en amakizone, princesse que personne ne vient chercher quand minuit sonne. De jolies personnes, les seules et ce soir, elles ont arrêté leur montre pour rentrer plus tard. De jolies personnes brillent dans le noir, se défoncent sur la piste, elles sont vues sans le voir. Ce soir toutes ensemble contre le reste du monde, elles ont repeint leurs jambes en noir avec leurs collants en nylon. Boivent à même une bouteille qu'elles font danser de bouche en bouche, la marque du goulot sur les lèvres rouges qu'elles retouchent dans les toilettes de la boîte bondée, où elles débarquent en bande au bar les cartes bleues vidées. Les épaules se détendent, elles dansent en cercle, des pointillés qui s'espacent, pivotent tour à tour vers des ombres pour leur faire face. Elles ont paré leur corps comme l'on décore un appart pour héberger celui avec qui elles feront bande à part ce soir. La ville regorge non pas de princes hypothétiques, mais de cœurs hypothéqués par des sentiments pathétiques pour de jolies personnes en amakizone, princesse que personne ne vient chercher quand minuit sonne. De jolies personnes, les seules et ce soir, elles ont arrêté leur montre pour rentrer plus tard. De jolies personnes brillent dans le noir, défonce sur la piste, elles sont vues sans le voir. Les ombres ont la voix grave et les mains qui se promènent, des regards qui entravent les jolis corps qui se démènent. Certaines esquives remettent les mains à leur place, d'autres les laissent aller venir comme des essuie-glaces. Toujours les mêmes qui aiment se faire des cavaliers seuls, avec qui disparaître de ces soirées en sous-sol. Toujours les mêmes qui restent, alors ça se disperse dans le parterre. La fête se disloque mais elles feront bloc jusqu'au vestiaire. Dehors, la nuit s'éteint dans la capitale. Elles ignorent les sifflements de quelques derniers mâles postés sur ta long aiguille comme sentinelle sur Mirador, à l'affût de prédateurs potentiels dans les angles morts. VTC commandé, on attend. La tête fait des loopings, la lumière du matin s'étend et brûle les pupilles. La fête a effacé les reflets de leur fond de teint. Elles s'endorment le front contre la vitre en se tenant la main. De jolies personnes, les seules et ce soir, elles ont arrêté leur montre pour rentrer plus tard. De jolies personnes brillent dans le noir, se défoncent sur la piste, elles sont vues sans le voir.
C'était Jolie Personne, un titre de Georges K. Vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes.
Très heureuse de vous présenter le livre Les gens dans l'enveloppe, écrit par Isabelle Monin, et les chansons composées par Alex Baupin. Alors, en quoi ce livre est-il original ? Eh bien, parce qu'en fait, à l'intérieur, vous allez trouver un album photo, une enquête et un livre CD. Et c'est en ce sens qu'il s'inscrit absolument dans le thème, la thématique de la chanson, on va dire, voilà, la chanson en littérature. Et j'ai vraiment décidé de vous présenter cet ouvrage parce qu'il me tient beaucoup à cœur. Je le connais depuis sa parution en 2015 chez Jean-Claude Lattès. Et c'est un ouvrage dont je parle beaucoup parce qu'il est extrêmement touchant. Le rythme nous emmène avec énergie et élégance. On pourrait dire, oui, c'est ça, dans une aventure singulière et extrêmement émouvante. Il y a une dynamique créative qui nous happe, qui nous surprend.
Alors voilà un petit peu comment ça se passe. Ça commence par un récit, l'enquête prend la suite, et en fait, nous partons dans le petit village de Clerval, situé à mi-chemin entre Besançon et Montbéliard. Au début, ce n'est pas un livre, ni deux, ni rien. Au début, c'est juste une grande enveloppe blanche qui arrive par le courrier. Au début, on ne sait même pas pourquoi elle est là. Voilà, c'est juste une enveloppe. En juin 2012, pour une poignée d'euros, j'ai acquis sur un site de vente aux enchères un lot de 250 photographies de famille, dont une soixantaine de Polaroid. Elles sont banales, souvent mal cadrées et parfois à contre-jour. Elles ont été prises dans les années 1960 et le tout début des années 2000. Si ce n'est un barrage, celui du Châtelot, aucun lieu n'est nommé. Pas un prénom, peu de dates, mais des visages, toujours les mêmes. Une petite fille. Nous devons avoir le même âge. Elle est jolie et son regard est franc. Un homme qui peut être son père, un couple de personnes âgées qui doivent être ses grands-parents, une coureuse à pied d'un certain âge qui gagne des courses et pose avec ses coupes. Un camping où il rencontre en été d'autres gens. Ces photographies sont ordinaires, familiales et universelles. Elles m'émeuvent. Voici donc un extrait de cet ouvrage écrit par Isabelle Monin. Elle a vraiment décidé, oui c'est ça, à partir de 250 photos d'inconnus, d'écrire une histoire, une fiction. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle part avec en tête l'idée de retrouver les personnes photographiées afin de confronter eh bien, son écriture, cette fiction, à la réalité des gens. Alors cet ouvrage est vraiment une belle rencontre que j'ai envie de partager avec vous, auditrices et auditeurs. Se laisser porter par cette alchimie. Alors, qu'est-ce qui est chanson dans la littérature ? Eh bien, un élément en plus. Ici, c'est vraiment une émotion comme dans une bande originale de film, sauf que là, c'est d'un livre dont il s'agit. Et qui n'a jamais rêvé, un jour, d'écouter le disque inspiré par la ou le romancière ? Ici, c'est livré clé en main. Et franchement, ça passe crème. Hein. C'est beau parce que c'est sincère, c'est authentique. C'est beau parce que l'autrice nous donne une démonstration de ce que peut être de donner de la hauteur à des gens qui le méritent. C'est beau parce que les chansons d'Alex Baupin sont originalité et confidence. Alors ce livre a connu un très beau succès en librairie lors de sa sortie. Et moi je vous propose d'aller en bibliothèque pour aller à sa rencontre ou alors de le commander chez votre libraire préféré. Ça peut être un très beau cadeau de fin d'année. Ce livre, il parle de l'amour des gens avec simplicité. Il parle de l'amour de la musique en une alchimie douce et puissante. Alors, qui est Isabelle Monin ? Eh bien, Isabelle Monin, en fait, c'est un personnage, c'est une journaliste. Elle a souvent collaboré avec la Radio France Inter. Elle a écrit des essais, elle a fait des pièces de théâtre. Et elle est notamment originaire de Franche-Comté. Et sans aucun doute, il y a des similitudes avec l'histoire des personnages qu'elle raconte par la date de leur naissance. Et ça y crée forcément un rapprochement, une similitude. Et qui est évidemment Alex Baupin ? Eh bien, c'est ce compositeur fabuleux qui a travaillé dans beaucoup de musiques de films français. Alors, sans aucun doute, il y en a pas mal que vous connaissez. Il y a par exemple... Dans Paris en 2006 de Christophe Honoré, l'année suivante Les Chansons d'amour. Il y a aussi Les Bien-aimés en 2011. Il y a Les Malheurs de Sophie, ou plus récemment Jonas de Christophe Charrier, ou le très beau film Claire Andrieux de Olivier Jahan. Et je vous laisse avec une très belle musique qui a été composée notamment pour ce livre splendide. C'est la chanson interprétée par Camélia Jordana, parce que celle-ci, elle me touche beaucoup par ses paroles. Elle retrace l'histoire d'un personnage qui est traité dans le livre. Et je vous laisse avec cette chanson et je reviens vers vous après.
J'ai dessous mon lit du bois et des pierres. Je passe mes nuits dans l'odeur de terre. Le jour je ramasse des feuilles et des branches que le soir j'entasse sous ma couche blanche. Ainsi va ma vie de pierre et de bois. Rien ne se dit, tout reste là, figé dans le piège des branches et des feuilles qui se désagrègent sous mon lit cercueil. Dimanche, tu sais, si je suis bien sage, nous irons marcher jusqu'au grand barrage et j'y jetterai des fleurs sauvages. Son corps est aussi de pierre et de bois. C'est à peine si il sait qu'il a froid. Ses bras tombent comme les feuilles et les branches que les mains des hommes débitent en planches. Comme elle est partie, il boit à cœur de pierre. Souchon et Voulzy, Jimmy Allenner, il s'écroule enfin des branches et ses feuilles. Puis jusqu'au matin, ne dort que d'un œil. Dimanche, tu sais, c'est plus de mon âge. Venir s'ennuyer sur le grand barrage, y voir crever les fleurs sauvages. J'ai dessous mon lit du bois et des quand je m'y enfouis, quand je m'y enterre, je crève d'envie, ses branches et ses feuilles, d'en être le fruit, qu'enfin l'on me cueille. Je crève d'envie, ses branches et ses feuilles, d'en être le fruit, qu'enfin l'on me cueille. Dimanche, tu sais, j'irai à la nage, te prendre un baiser sur le grand barrage, et je deviendrai ta fleur sauvage.
Cette chanson est quand même particulièrement belle. Ce disque est composé de 10 chansons originales, inspirées du roman et de l'enquête. Et Du bois et des pierres relate le personnage de Laurence que nous retrouvons dans le roman. Alex Baupin compose des textes dont la sensibilité sublime nous émeut. Et il ouvre ici une histoire dont l'imaginaire compose des visages, des récits de vie, en une proximité qui nous rend tout simplement proche des protagonistes. Vous savez, un peu lorsqu'on le retourne chez ses parents ou chez ses grands-parents et qu'on demande à regarder des albums photos, on s'assoit dans le canapé, on se pose et on se laisse toucher par ces visages, par ce passé, par l'ambiance et l'odeur qu'on retrouve, un peu comme Proust qui nous parle de la recherche du temps perdu et ce temps retrouvé. Et je trouve que ce disque permet justement de faire résonner une intimité émotionnelle avec ces gens du quotidien. Elle fait écho à notre histoire par tous ces personnages qui composent peut-être aussi nos vies, ceux que nous retrouvons en fait dans les livres du passé, dans les photographies anciennes et que nous avons mises sur un bureau. Alors ce livre vraiment très chouette est un exercice de style qui relate l'idée qu'une écrivaine s'inspire de photos pour raconter une histoire extrêmement touchante. Un peu, vous savez, comme les photographies de Raymond Depardon. Ça pourrait être nos grands-parents, nos voisins. Ils sont attachants, ils sont touchants. Et l'écriture s'inscrit ici, encore une fois, dans une volonté de leur rendre hommage et de leur offrir une mémoire. Ce livre est bien plus que des mots, et ses musiques bien plus que des notes. Un territoire d'histoire familiale, on pourrait dire, ouais, c'est ça. Avec un passé, un passé qui ressurgit et devient un présent intemporel, un présent éternel. Alors prenons soin de ce livre, comme l'ont fait Isabelle Monin et Alex Vaupin. Je vous embrasse, à bientôt.
Merci Sandrine pour cette jolie découverte. On se retrouve juste après une musique de Brigitte Fontaine pour notre mot de la fin. Je vous laisse avec le morceau « La symphonie pastorale ». Bonne écoute.
Je suis la liaison dangereuse entre les astres vénéneux, inspirée par les nébuleuses. J'ai le diable au corps où c'est Dieu, errant entre les murs de feu d'un entre-dessous du volcan, crachant la limonade bleue. Je fuis les hauts de hurlevent, où se cacher dans ce pays que règle le rouge et le noir. Pas une porte de sortie de l'autre côté du miroir. Je suis la machine infernale et la symphonie pastorale. Les matins transparents qui dansent, balayés d'un vent d'Odyssée. Je rêve d'une sieste jaune dans le gai savoir de l'été, loin de l'hôtel pervers où trône les fleurs du mal carbonisées. Et je m'en vais sur d'autres ailes, laissant sans vice ni vertu aux petites filles modèles. La recherche du temps perdu, je suis la machine infernale et la symphonie pastorale. de la mer. Je suis le lys dans la vallée, évanoui sous les baisers. Je suis la voiture d'Orphée. Parlons le langage des fées. Je conduirai les misérables au palais des rois trépassés. Nous ferons des statues de sable au chemin de la liberté.
Symphonie pastorale par Brigitte Fontaine.
Voici donc venue l'heure du remerciement rituel pour les voix charitables qui ont contribué aux lectures des chroniques de ce soir. Merci donc à Marion et aux fabuleux membres de sa colocation. Merci encore une fois à Marianne Di Benedetto et Gaëlle Debeau d'avoir donné de leur temps pour parler avec nous avec autant d'enthousiasme du Festival Transversal et aussi pour tout le travail de toutes celles et ceux qui ont contribué à sa préparation. On espère qu'après ça, auditrice auditeur, tu as faim de chanson. Et tant que je te tiens, sache qu'on te donne rendez-vous la semaine prochaine de 19h à 20h sur Radio Syllabe. N'oublie pas que tu peux retrouver tous nos podcasts sur le site de syllabe.fr si jamais t'as envie de partager ça avec ta maman. Et puis tu peux aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux pour connaître toutes nos actus. D'ici qu'on se retrouve, je te souhaite une bonne soirée, et si tu en as le loisir et l'envie, de bonnes lectures et autres rencontres avec la littérature.